Tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. Nous vivons dans une société où la performance est toujours plus valorisée. Il faut être rapide, bon et heureux partout. Ces objectifs ne sont pas toujours faciles à atteindre, encore moins peut-être quand on est handicapé. Les progrès de la médecine font qu'il est possible d'atténuer les effets de certaines infirmités. Le diagnostic préimplantatoire permet même de prévenir certains handicaps. Mais du coup, quelle place laisse notre société à la personne handicapée? Comment la perception et la prise en charge de ces personnes ont-elles évolué? Eh bien, nous allons nous pencher ce matin sur notre rapport à la différence. Bonjour Monique Richaud.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Pro Infirmis Vaud, une association qui fête cette année ses 75 ans d'existence. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, comment ça a évolué la perception du handicap depuis, disons, la fin de la deuxième, ou la deuxième guerre mondiale, vu que votre association fête cette année ses 75 ans?
Oui, alors en retrouvant des écrits dans notre association, j'aime beaucoup voir les archives. Nous sommes donc créés en 1941, une période quand même fortement marquée par l'eugénisme au niveau européen concernant le handicap. Donc et en même temps, il fallait le corriger, ce handicap. Et là, on était donc propulsés en fait. Nos assistants sociaux étaient propulsés à détecter les enfants handicapés, cachés. On n'appelait pas encore handicapés les enfants estropiés à l'époque. Cachés, on les cachait à l'époque.
Pourquoi on les cachait?
On les cachait, on en avait honte, ça se montrait pas. Un enfant handicapé ne se montrait pas dans les années 40. Et c'est des médecins orthopédistes qui nous ont dit, écoutez, nous sommes au point avec certaines opérations, nous pouvons corriger certains pieds bots, etc. Aller détecter, aller convaincre les familles pour qu'elles acceptent les opérations. Donc voilà, on en était à notre création.
Vous avez dit ce mot eugénisme, je crois même, j'ai fait quelques recherches hier, Pro Infirmis d'ailleurs à ses débuts a été un petit peu accusé aussi d'eugénisme, parce qu'il y avait deux aspects, il y avait voilà, il fallait aussi un peu prévenir, donc il y avait un petit peu ça qui, je crois que c'était écrit en 1920 au niveau suisse, il y avait aussi ces accusations qui existaient.
Oui, on avait aussi une affiche qui représentait une plante un peu fanée, qui représentait le handicap, et il y avait des représentations extrêmement rudes quand on les compare à aujourd'hui, ce qu'on fait au niveau de l'image, ce que fait Pro Infirmis au niveau de l'image du handicap. Oui, c'était une tendance européenne, je ne tiens pas à excuser Pro Infirmis, mais il fallait situer les choses dans leur contexte général.
Vous dites qu'il y avait des images, les mots aussi étaient complètement différents, on parlait d'arriéré et de débile.
Oui, on était donc tout au début Pro Infirmis Suisse cette fois, l'association suisse des arriérés, effectivement. Oui, on était, les mots ont beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui où on parle de situation de handicap, on y reviendra je pense.
Oui, c'est intéressant cette question des mots, parce que moi j'ai utilisé le mot handicapé, certains utilisent situation d'handicap, avant on disait arriéré, on s'arrête où, quel est le bon mot qu'il faut utiliser?
Le bon mot c'est certainement, et là je pense que les personnes handicapées elles-mêmes sont d'accord, le bon mot est situation d'handicap. Ça suppose une lecture nouvelle du handicap, à savoir que le handicap est une notion relative. Cela ne dépend plus seulement de la personne et de ses déficiences, mais ça dépend aussi de l'environnement. L'environnement est-il adapté ou pas? Dès lors, une personne qui a une déficience physique peut ne pas être en déficience, en situation de handicap dans son travail si l'environnement professionnel est adapté.
Peut-être une question politiquement incorrecte, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin des fois dans la manière de toutes les décennies, deux décennies, changer la manière d'appeler certaines choses, peut-être de peur d'appeler un chat un chat?
Alors, cette notion de situation de handicap, elle est née des années 80, ça fait donc 36 ans qu'elle est là, et qu'elle ne cesse de se renforcer. Je pense qu'elle a une validité qui va durer encore quelques décennies en tout cas, et qui renvoie à un schéma politique du handicap auquel nous adhérons. Et je pense que lorsqu'on comprend cette notion de situation de handicap, on comprend aussi qu'on est tous concernés, soi-même concernés. Qu'est-ce que je fais dans mon environnement pour que celui-ci soit handicap-friendly, par exemple? Donc, je pense qu'il a encore de belles journées devant lui, ce concept.
Si on regarde de nouveau un petit peu dans le rétroviseur de l'histoire, à l'époque, peut-être dans les années 40, l'idée pour soigner les personnes qui étaient touchées par le handicap, eh ben, c'était de les séparer de la société. On les séparait, c'est juste?
Oui, on faisait de la ségrégation, comme on dit. Mais on voulait bien faire. Entendons-nous. Je veux dire, on crée toutes sortes de thérapies spécialisées. On a fait aussi beaucoup pour l'enseignement spécialisé. Pro-infirmisvo y a contribué. J'ai vu que la directrice, dans les années 50, allait même donner un coup de main pour peindre des locaux, pour ouvrir une école spécialisée. Il y avait une fierté à ouvrir une école pour les enfants handicapés dans ces années-là, dans les années 50, 60. La pédagogie spécialisée évoluait. On acquérait des outils très performants, je pense. Mais on mettait à l'écart. Mmh.
C'est le cas aussi pour les asiles psychiatriques, c'est très clair, on le voit, je crois que c'était du côté d'Yverdon, on le voit aussi à Lausanne, Cerie et dans d'autres cantons, Marsens, par exemple, on mettait les fous, comme on appelait à l'époque, on les mettait vraiment à l'écart de la société.
Oui, à l'écart, mais on mettait aussi, dans ces asiles psychiatriques, les personnes handicapées mentales, comme on les appelait à l'époque, mmh. Plus simplement handicapées mentaux, on les mettait aussi dans les asiles psychiatriques. Heureusement, ça changeait.
Et puis, alors maintenant, voilà, clairement, ça a changé. On est plutôt dans le mot qu'on utilise maintenant, c'est l'inclusion. Il faut inclure. Alors, on met ces hôpitaux, qu'on n'appelle plus forcément hôpitaux, mais au sein de la société, dans les villes. Et puis, ben, les enfants, par exemple, en situation de handicap, on les met à l'école. On essaie de les mélanger avec les enfants qui n'ont pas ce problème-là.
Voilà. Oui, c'est une tendance assez forte. C'est d'abord la revendication des associations de personnes handicapées, à savoir qu'elles veulent. Les personnes handicapées veulent vivre comme tout le monde au sein de la société, ne pas être assignées à une place spéciale dédiée à elles en dehors de la société. C'est une revendication des milieux associatifs de personnes handicapées d'abord. Et ensuite, il y a eu des lois, il y a eu la fameuse loi contre les inégalités qui touchent les personnes handicapées, la L-HAND qui date de 2004. Il y a ensuite la convention de l'ONU pour les droits des personnes handicapées que la Suisse a signée finalement, l'un des derniers pays à l'avoir signée en 2014. Ces lois marquent aussi ces étapes.
Donc c'est vraiment la bonne solution maintenant, on préfère inclure plutôt que soigner dans un endroit dédié par exemple.
Bon, alors là, peut-être que je reprendrai les mots de l'historien Henri-Jacques Sticker, qui est l'historien parmi les historiens qui connaît vraiment le handicap. L'intégration, la meilleure, sera toujours la première et non la réintégration après des circuits longs et spécialisés. Si l'on veut intégrer, ne désintégrons pas pour réintégrer. Donc, c'est sûr, maintenant, on se pose la question comment, dès l'enfance, dès la prime enfance, comment travailler avec les crèches-garderies pour que les enfants, dès leur plus jeune âge, aient une place parmi les autres. Et surtout que les autres s'habituent à cohabiter, à avoir toutes leurs habitudes de vie partagées avec des enfants.
Il y a une normalité d'avoir des gens, des personnes handicapées dans sa classe. Ce qui a aussi peut-être changé, c'est la technologie. Il y a des avancées technologiques assez fortes qui peut-être permettent une meilleure inclusion.
Voilà, par exemple, pour les enfants sourds, ça a été assez évident. L'un de mes premiers événements quand j'étais directrice, il y a plus de 20 ans, c'était l'inauguration de l'école cotonale pour les enfants sourds. Maintenant, il y a plus d'enfants sourds dans cette école. Ils sont tous implantés, comme on dit, ils ont un implant cochléaire qui leur permet de passer du statut de sourd au statut malentendant, donc d'être intégrés dans l'école régulière, comme on dit. Oui, mais tous les handicaps, toutes les déficiences ne bénéficient pas de ces avancées techniques.
Il y a aussi le fait que certains parents ne comprennent pas ce système d'inclusion. Certains parents disent, mais écoutez, il y a un enfant sourd dans notre classe ou malentendant, il retarde l'avancée des 20 autres élèves. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Mais alors, c'est vrai que c'est l'autre versant de tout ce mouvement d'avancée de l'inclusion. C'est les représentations qu'on peut avoir. L'Observatoire des inégalités en France a fait des recherches et montre que l'obstacle numéro un, finalement, pour l'intégration, l'inclusion, la participation sociale, n'est pas tant les barrières architecturales actuellement que les représentations, les préjugés, ce qu'on pense de l'autre. Et ça, c'est très fort. Il faut savoir que c'est l'obstacle numéro un actuellement. Et les parents pensent que ça peut retarder leur enfant brillant, ça va peut-être retarder le développement dans le programme scolaire parce qu'il y a un enfant ou deux handicapés dans la classe. Ça demande beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup d'intervention des pouvoirs publics, des associations pour aller à l'encontre, pour tenter de combattre ces préjugés.
Alors, vous l'avez dit, il y a certains handicaps ou certaines infirmités qui peuvent bénéficier de la technologie. C'est clair, il y a les personnes sourdes, il y a aussi les prothèses pour les personnes qui ont perdu un membre ou qui sont nées sans un membre. Mais c'est vrai, il y a d'autres pas du tout. Alors, quels exemples où il n'y a pas de solution pour l'instant pour intégrer ces personnes-là?
Alors, je pense qu'il y aura toujours des solutions. On sera moins bien servi par la technologie, par exemple, si on a une déficience intellectuelle. Mais encore, là je me renseignais, je vois que les nouvelles technologies de communication permettent, dans son friand, les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, permettent des repérages pour vivre dans notre société qui sont tout à fait nouveaux en regard d'il y a 20 ans.
Il y a quelque chose que vous m'avez dit hier en préparant cette émission qui est assez incroyable, c'est que l'intégration, toi, dans l'évolution pour les handicapés, quelque chose qui est très fort, c'est les guerres. Les guerres ont un peu servi la cause. Expliquez-nous ça.
Oui, alors, c'est dans les histoires sur le handicap, on est toujours frappé par cela. Il y a toujours des gens qui reviennent des guerres. Bon, il y a des morts à honorer, mais il y a aussi des blessés de guerre. Et on voit que les États sont très attentifs à la reconnaissance vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est pour ça que dans les métros, par exemple, à Paris, on voit ces places réservées aux mutilés de guerre, etc. Puis on voit que c'est toujours l'attention portée à la place qu'on doit leur faire dans la société qui fait évoluer les politiques du handicap. Je pense que le groupe qui a le plus fortement marqué l'évolution des politiques du handicap, ça a été les vétérans du Vietnam aux États-Unis, avec une législation qui a suivi après coup, suite à leurs revendications.
Parce qu'il y a une forme de culpabilité, entre guillemets, de l'État. C'est l'État qui a envoyé ces personnes au Vietnam et qui ensuite doit les assumer, tandis que les autres, ils peuvent toujours, à la limite, fermer les yeux, dire on n'y est pour rien, tandis que là, il y a une sorte de responsabilité de l'État.
Très probablement, on leur doit quelque chose à ces personnes. On leur doit une reconnaissance.
Monique Richaud, nous parlons d'handicap avec nous. Avec vous, nous allons écouter Camélia Giordana et on se retrouve juste après.
Tribu sur la première.
Les mains sont boîtes à caresses, les bouches boîtes à bisous, les lits sont boîtes à paresse, tout n'est que boîte après tout. Les yeux sont boîtes à images, les fleurs boîtes à parfum, les rêves boîtes à voyage qu'on referme le matin. Et le monde.
Les boîtes, c'était Camélia Giordana sur une musique de Francis Cabrel. Nous parlons de handicap et de la place qu'on lui laisse dans la société avec vous, Monique Richaud, ce matin. Alors, pour une firmice, dont vous êtes la directrice vaudoise, travaille aussi en amont de la naissance. C'est quelque chose qu'on connaît un peu moins. Donc vous travaillez, comment ça se passe avec les parents? Vous discutez avec eux?
Voilà, alors déjà dire que c'est surtout à travers notre conseil social, nos équipes d'assistants sociaux, qui sont en fait le fil conducteur de toute notre histoire. C'est les premiers qui allaient détecter les familles avec un enfant handicapé. Ça s'est développé et nous avons un service spécialisé de conseil, les besoins spéciaux de la petite enfance, basé au CHUV, qui est là dès l'annonce du handicap. Et maintenant, c'est nouveau, dans quelques situations, assez peu, on intervient même en amont, donc avant la naissance, lorsque le diagnostic est posé, lorsque c'est trop tard ou que la famille refuse l'interruption de grossesse, lorsqu'on sait que ce sera un enfant handicapé.
Comment ils réagissent les parents en général quand ils apprennent la nouvelle que leur enfant sera handicapé?
Alors ils sont pétrifiés souvent, le plus souvent, hein, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, c'est incompréhensible, ça peut pas leur arriver. On dit qu'ils sont vraiment pétrifiés par rapport à ce qui leur arrive.
Et par la suite, est-ce que vous avez un suivi?
Oui.
Moi, j'avais lu ce fameux témoignage de personnes qui avaient eu un diagnostic de trisomie 21. Là aussi, le ciel était tombé sur la tête. Et puis cette personne, cette mère, avait fait une année après ou deux ans après un témoignage assez épatant qui disait qu'ils avaient vraiment... Elle avait dit, mais clairement, moi, je voulais arrêter, hein, avorter. Et finalement pas. Elle racontait un ou deux ans après ce que cet enfant lui apportait.
Oui, alors je crois que ça c'est très très fort. Bon, déjà nous on essaye de tout faire. Bon, on n'est pas tout seul. Il y a les thérapeutes, les médecins, les structures spécialisées. On essaye de tout faire pour leur dire oui, ce sera possible. Voilà, et vous pouvez discuter avec des pères, PAIRS, des familles qui ont la même expérience que vous et qui vous montreront que c'est tout à fait possible, qu'il y a une qualité de vie. Ça va être différent, mais c'est tout à fait possible et jouable. Et voilà ce qui va se passer pour votre enfant. Exploiter au maximum toutes les ressources possibles. Orienter, faciliter les démarches administratives. Il y a un travail conséquent à faire de notre part, de Pro-Infirmis, pour que ce soit beaucoup plus facile. Mais n'oublions pas les associations de parents d'enfants handicapés qui peuvent se conseiller aussi. On voit maintenant la rapidité du transfert d'informations via Internet. Des familles sont en contact avec des familles en Grande-Bretagne, par exemple, parce qu'elles veulent connaître une famille dont l'enfant a le même diagnostic rare que leur enfant. Je pense que ce développement a aussi permis un grand partage.
On parlait de la technologie, il y a notamment qui peut aider les personnes en situation de handicap, mais en même temps, on peut se poser des questions. Maintenant, avec la technologie, on peut savoir tout ou presque avant que l'enfant naisse. Il y a bien sûr l'échographie, mais il y a le diagnostic préimplantatoire qui est possible maintenant en Suisse. Le peuple l'a accepté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que ça discrimine encore plus les personnes handicapées?
Oui, c'était tout le débat lors de la votation, la première votation sur la Constitution en 2015, où le peuple a accepté de modifier donc la Constitution, donc permis le diagnostic préimplantatoire. Et en plus cette année, c'est tout récent, on a l'impression que c'est beaucoup plus ancien, mais c'est tout récent. Donc on s'est prononcé aussi en faveur de l'assouplissement de la loi sur la procréation médicalement assistée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Si on comprend la souffrance de familles qui se disent on aimerait absolument éviter que tel diagnostic touche nos descendants, on comprend aussi la souffrance des familles qui disent « mais de toute façon, il y aura des enfants handicapés, ne risquent-ils pas d'être encore plus stigmatisés qu'ils ne le sont maintenant ?» C'est un danger réel, et il ne faut pas se voiler la face, c'est un danger réel.
Et une stigmatisation aussi peut-être des parents, parce que c'est les parents qui choisissent finalement de garder ou pas un enfant.
Oui,
le regard sur les parents peut être dur.
Tout à fait. Et je pense que des parents m'ont relayé le fait qu'on leur dit « mais comment votre enfant est-il né handicapé ?» Avec tous les progrès de la médecine, de la technologie médicale actuellement, comment vous pouvez avoir un enfant handicapé? On peut dire ça maintenant, on le disait pas il y a 20-30 ans.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs, avec l'avancée de la médecine, de la technologie, est-ce que le nombre d'handicapés a baissé?
Alors, on dit que le taux de prévalence et d'incidence sont restés stables, à savoir le nombre d'enfants, soit à la naissance, soit dans les 4 premières années de vie, est resté stable. Il y a des déficiences qui disparaissent grâce justement à ces possibilités d'interruption de grossesse, ou ce sera dans le futur grâce à l'introduction du diagnostic préimplantatoire. des déficients disparaissent, mais des enfants qui ne vivaient pas, qui ne survivaient pas, survivent maintenant. Et ça, c'est une préoccupation, je pense. Donc, tout confondu, on pense que le taux est assez stable.
Il y a par contre des types de handicap qui commencent à augmenter. Vous m'avez parlé hier de la question de l'autisme.
Oui, alors j'ai encore des chiffres ce matin pour notre service justement qui conseille les familles avec un jeune enfant. On est avec un taux qui a grimpé. On était à 10% des nouvelles situations il y a quelques années. Maintenant, on est bientôt à 20-30% des nouvelles situations qui sont annoncées comme ayant des troubles du spectre autistique.
Mais comment ça s'explique, cette augmentation?
Bon, déjà, un diagnostic qui est posé beaucoup plus tôt. Je pense l'affinement là des techniques médicales pour comprendre ce qui se passe, les psychologues aussi pour comprendre ce qui se passe, avec l'hypothèse, donc je pense que c'est plus qu'une hypothèse, disent les recherches de pays anglo-saxons, c'est que plus on intervient tôt avec des thérapies dédiées très spécifiques, moins la situation de handicap sera importante plus tard à l'adolescence et lors de la vie d'adulte.
Alors, si on parle un peu de la perception des personnes handicapées, comment est-ce qu'elle a évolué positivement ces dernières années?
Ouais, on doit dire que le tableau est contrasté. Je pense que grâce justement au fait qu'on en parle beaucoup dans les médias, grâce aux associations de personnes handicapées qui s'affirment, je suis l'experte de ma propre vie, disent ces personnes. On voit grâce aux législations quand même, mais qui sont quand même encore assez modestes dans leurs intentions. On voit des changements, on voit des avancées et on voit le mélange des publics. Mais on voit aussi, comme vous l'avez annoncé en tout préambule, ce goût de la perfection, ce goût de la performance qui fait que ça gêne un peu cette situation de handicap et puis on se demande comment ces personnes peuvent encore être là. Donc le tableau est un peu à des nuances.
Dans le tas de la partie positive peut-être du tableau, il y a le fait que médiatiquement les personnes handicapées sont beaucoup plus présentes. Oui. On pense au film Intouchable qui avait un côté un peu, qui cassait un petit peu, qui osait un peu rire de ça, mais de manière positive.
Oui.
Il y a la fameuse série Game of Thrones avec cette personne atteinte de nanisme qui a un rôle incroyable, pas du tout de nain. Je veux dire, ça avance beaucoup. Il y a l'écrivain Alexandre Jolien, le philosophe qui aussi a une position, il est lu par des millions de personnes. Donc ça a quand même évolué la place médiatique de ces personnes.
Oui, on a des figures emblématiques. Il faut aller à un concert au KKL et écouter Thomas Quasthoff, donc l'une des plus grandes voix lyriques d'Europe actuellement. Et lorsqu'on le voit arriver sur scène, ce petit bout d'homme et l'autorité qu'il dégage, on comprend bien là que la déficience finalement n'a pas beaucoup de poids face à ce que peuvent nous amener ces personnes, ce que peuvent nous les amener.
Donc ces figures-là, elles sont importantes un peu
elles
pour
sont
votre
très
cause.
Très importantes, bien sûr. Nous les mettons en évidence, nous essayons de les citer chaque fois que c'est possible, de les mettre en avant. C'est très très important pour nous.
Même au niveau politique, en Suisse, on a des politiciens qui sont pour certains lourdement handicapés. Il y a Christian Laure, qui est donc cette personne qui est née sans bras, avec des jambes assez atrophiées. Il y avait Luc Recordon aussi, qui avait d'ailleurs beaucoup parlé de son handicap. Ça aussi, ça vous aide?
Ça nous aide. Ça, c'est des personnes qui ont une déficience visible, vite repérable. Puis après, il y a tous les autres dans le Parlement qui sont par exemple très gravement malentendants et qui à leur manière peuvent faire avancer par exemple les équipements en exigeant que soient posés des boucles magnétiques pour les personnes qui ont des appareils auditifs. Il y a tous les autres où c'est pas très visible mais qui font quand même avancer tout ce qui relève de la participation sociale.
Alors on a parlé de cette volonté d'inclusion des personnes handicapées, en gros de normalisation. Est-ce que ça pose pas une question d'existence pour vous, pour une firmiste?
Alors, je dois dire qu'on a toujours été, depuis 20 ans, pour Infirmis Vaud, très réactif aux besoins des personnes handicapées, à l'évolution de leurs besoins. Je dois dire, on ne sait plus où donner de la tête par rapport à la création de prestations ad hoc qui visent à les aider à trouver des niches d'emploi dans la société, un CRH, à leur trouver un logement avec notre projet Handiloge. Chaque fois, on essaye d'identifier un besoin très spécifique qui va servir l'inclusion et la participation sociale pour en faire un projet et une prestation. Et je dois dire que là, on est vraiment on a des moyens extrêmement limités par rapport à tout ce qu'il faudrait faire.
Alors on a parlé des aspects positifs et peut-être négatifs de la perception du handicap dans nos sociétés. Qu'est-ce qu'il faudrait encore changer? Si on prend peut-être les exemples des villes, est-ce qu'il y a des choses simples, pragmatiques qu'il faudrait encore changer?
Oui, alors là, je pense qu'il manque souvent une lecture commune en dicastère, en département, de ce que c'est la situation de handicap, pour réfléchir ensemble, tous les départements, qu'on ne soit pas toujours assignés au département social, à une lecture des institutions sociales. Être en situation de handicap, c'est dans la vie de tous les jours. Par exemple, maintenant, le magnifique marché de Noël, la fête, le beau Noël, qui amène beaucoup à Lausanne, oui, qui est extraordinaire, qui amène beaucoup de moments dans notre mois de décembre, très intéressant. Mais on a sacrifié les places surdimensionnées pour les personnes handicapées. On les exclut de facto. Donc, il faut vraiment avoir une lecture beaucoup plus globale de la situation de handicap.
Merci Monique Richaud d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice de Prune Firmisvaux. Alors, et pour celles et ceux qui sont intéressés par cette cause, vous organisez une journée de sensibilisation. C'est ce samedi, je crois, à l'église Saint-François. En quelques mots, qu'est-ce qu'on pourra y voir? Qu'est-ce qu'on pourra y faire?
Par exemple, les personnes qui ont une déficience intellectuelle qui vont vous raconter l'histoire des vitraux de l'église. Ou des personnes qui ont une déficience visuelle qui vont vous inviter à vous bander les yeux pour aussi vous balader dans l'église et voir l'histoire de l'église.
Merci beaucoup. Alors, celles et ceux qui sont intéressés peuvent se rendre donc à l'église Saint-François. C'est ce samedi.
Dès
11h du côté de Lausanne. Merci. Bonne journée.
Merci.
Et merci à John Haslebacher, la technique. Demain, nous parlerons d'un sujet qui n'est pas si éloigné de la thématique du jour, c'est-à-dire la tolérance, avec Denis Lacorne. Mais tout de suite, place à Laurence Bizan et à ses décodeurs. Je vous souhaite la plus belle des journées.